Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU, carré, petit, utile.
Dans cette release de CPU en mode Lost and Found, une voix de canard, un iPhone ultra plat, un hacker à l'Eurovision et le Tétalab en portes ouvertes. L'équipe aujourd'hui, Benoît, Touf, Gabriel, Dascritch et Enflammé. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Allez, on y va! Bonjour à tous, bonjour Gabriel.
Bonjour.
Bonjour Touf.
Bonjour.
Bonjour Benoît.
Bonjour.
Bonjour Enflammé. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui te gondoles de rire chaque fois que je...
Prends cette voix ridicule de canard.
Alors que ce n'est pas drôle du tout, et je ne parle pas que des dangers de se geler les cordes vocales à l'hélium ou le risque d'asphyxie. L'hélium n'est pas l'atome le plus simple de la nature, c'est l'hydrogène. Mais l'hélium est le gaz noble, le plus simple, le premier élément dans le tableau périodique qui existe naturellement à l'état monomoléculaire. Deux protons et deux neutrons dans sa forme la plus stable, à l'état naturel, l'élément hélium est un gaz extrêmement léger et de par sa plus petite taille que le gaz dit hydrogène, le plus fluide, celui qui passe le plus facilement dans une paroi à peine poreuse, le plus compliqué à extraire, contenir et garder. Quand l'hélium s'échappe, il rejoint très vite la très haute atmosphère. Impossible de l'y récupérer alors. D'où ce paradoxe, l'hélium est le deuxième élément chimique le plus présent dans l'univers, mais on a un mal fou à en extraire et à le conserver sur notre planète. Sa couche électronique est tellement simple et complète qu'elle est totalement inerte chimiquement. L'hélium n'oxyde pas, ne s'oxyde pas, ne s'enflamme pas, ne fait pas brûler, ne s'amalgame pas et ne se dégrade pas. Et il est naturellement gazeux, puisque sa température de condensation à la pression du sol est de moins 269 degrés Celsius, soit 4 degrés Kelvin. Oui Kelvin, ça fait très froid, l'hélium liquide casse même les Terminators. L'usage de l'hélium suit forcément ses propriétés. L'hélium sert pour les dirigeables, et ceux qui le font pas risquent un accident, comme pour le vol inaugural du Hindenburg. Mais si, celui qui s'est fini en feu d'artifice mortel. Maintenant qu'on sait qu'elle est due à une mise à la terre hasardeuse par temps d'orage et que le dirigeable était gonflé à l'hydrogène à la place de l'hélium à cause d'un embargo avec les États-Unis envers l'Allemagne nazie, résultat, c'est dans ces mêmes États-Unis qu'il a fait schlark, boum, boum. Si on est très loin de l'ère des dirigeables géants, il existe quand même des dirigeables pour tous les usages et les balançons de météo n'arrivent à atteindre la stratosphère que grâce à l'hélium. L'hélium sert aussi pour les appareils scientifiques qui ont besoin d'être refroidis à une température très proche du zéro absolu, ce qui inclut les appareils IRM et RMN dans les hôpitaux. Ouais, imagerie par résonance magnétique et résonance magnétique nucléaire. Et figure-toi que oui, ces engins consomment de l'hélium car leurs joints ne sont pas tous totalement étanches ou que le moindre problème électrique fait que l'hélium s'évapore brusquement dès que l'intérieur de l'appareil se réchauffe au-dessus de 4 degrés Kelvin. On appelle ce phénomène d'évaporation brusque le quench, et inutile te dire que s'il arrive, ses conséquences sont extrêmement fâcheuses. L'hélium sert dans l'industrie informatique, par exemple pour des appareils qui servent à produire de la fibre optique ou certaines gravures de puces, mais aussi pour construire des disques durs à très forte capacité avec plus de plateaux et une plus grande densité de données. Car à très 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 haute vitesse de rotation des plateaux et la distance extrêmement fine entre ces plateaux et les têtes de lecture, l'air ou l'azote sont trop denses, s'échauffent et créent des turbulences. La fluidité de l'hélium permet de faire tourner les plateaux extrêmement vite sans perturber la trajectoire des têtes de lecture. Les constructeurs ont bien tenté de mettre sous vide l'intérieur d'un disque dur, mais l'hélium participe au refroidissement de la mécanique et à sa lubrification. Ces disques durs à très haute vitesse et très haute capacité se retrouvent dans les data centers afin d'arriver à une très forte densité technique de données. Inutile de te dire que ces disques durs sont très stratégiques vu les besoins actuels. Et enfin, l'hélium gonfle les ballons fantasy métalliques, genre anniversaire ou vœux de retraite, en leur permettant de flotter vers les cieux. Ouais, des ballons devenus très à la mode dans les années 1990 car ils permettaient des découpes et impressions fantasy, des enveloppes, et l'aluminium leur donne un aspect chatoyant. Bah, figure-toi que la consommation mondiale en hélium pour ces ballons qui ne sont ni très étanches, ni franchement indispensables, a fait poser sérieusement la question de leur interdiction aux États-Unis durant les années 2000. Les médecins, les industriels, les scientifiques et les militaires étaient très chagrins de voir ces centaines de ballons s'envoler comme ça au moindre mariage, partant vers la haute atmosphère. En plus de la perte sèche en hélium, ces envolées groupées brouillent les radars. Et les enveloppes se dégradent très mal dans la nature. Enfant du futur immédiat, comment qu'on trouve de l'hélium sur Terre? Parce que depuis 4 milliards d'années, l'hélium du Big Bang récolté des poussières d'étoiles a eu le temps de s'enfuir de l'atmosphère terrestre. Eh ben figure-toi que l'hélium terrestre est une conséquence de la radioactivité alpha qui réchauffe le noyau de la Terre. Et que, pour le capter, on l'extrait en même temps que le pétrole et le gaz. C'est en 1903, sur un champ pétrolier du Kansas, qu'est extrait pour la première fois cet élément. Et avec l'explosion des ballons dirigeables, les États-Unis ont très vite compris que ce gaz a un intérêt stratégique. Dès 1925, l'Helium Act va en limiter les possibilités d'export et accorder une préférence nationale aux besoins fédéraux. En 1995, les États-Unis vont en libérer son usage commercial, d'où l'arrivée des fameux ballons métalliques fantasy à cette époque. L'hélium a connu une première crise de ressources en 2010, car les infrastructures de son extraction dataient de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que les États-Unis, en débloquant leurs réserves stratégiques, se posaient la question d'en réduire les usages civils autorisés. Actuellement, les trois principaux producteurs d'hélium sont pour moitié les États-Unis, pour un tiers le Qatar, pour un dixième l'Algérie et les autres pays pour un dixième. Or, par où passe le Qatar pour exporter ? Mais oui, par le détroit d'Hormuz ! Donc, un tiers de l'hélium, un cinquième du pétrole brut, un cinquième du gaz pétrolier et un quart de la production mondiale d'engrais azotés. Inutile de te dire que la guerre chaude soutenue par Trump donne des sueurs froides à tous les industriels qui ont besoin de ce gaz rare. Donc oui, la moindre idée stupide du grand leader de la plus grande puissance militaire, financière et technologique de notre monde peut faire spectaculairement faire grimper le prix de l'hélium bien au-delà de l'orbite basse. Enfant du futur immédiat, parce qu'il monte très haut aussi en bourse, il va falloir faire attention à ne plus gaspiller d'hélium.
Quant à Donald Trump, comme son homonyme de chez Disney, il manque de calme et de recul. Bref, il gonfle tout le monde.
And now, the news.
Vous écoutez Radio FMR, CCPU l'émission Carré Petit Utile. De suite, notre première édition de news pour avril avec l'ensemble de la rédaction Touf et Gabriel. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Bonjour Touf.
Bonjour.
Plouf plouf, ça sera toi qui fais la première news. Touf donc.
Dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale, Microsoft a donné la clé de déchiffrement BitLocker de 3 ordinateurs au FBI. Car oui, les clés sont stockées sur les serveurs de Microsoft. En clair. Oh, comme c'est sécurisé. Voilà, voilà. BitLocker, BitFlop, ouais.
Microsoft Teams va permettre aux États-Unis de donner votre position à votre employeur. Le lieu, la date, l'heure, un pointage in-out en sorte. Cette mise à jour sera désactivée par défaut. Jusqu'à ce que l'administrateur local décide, enfin la direction décide, de l'activer sans possibilité pour l'utilisateur final de le désactiver. Et il est comment ton patron ?
On n'est pas des Yankees. Les deux spécialistes tech de la chaîne RTBF XP se sont posé la question si on aura encore des cartes vidéo distinctes du CPU, puisque les cartes mères emploient de plus en plus des APU, donc des chipsets complets, CPU, MMU, GPU, dans la même puce. Est-ce bientôt la fin des cartes graphiques, comme pour les cartes son ?
Pierre Lecour revient sur son site minimachine.net sur le choc qu'a été à l'époque le netbook IIPC d'Asus à moins de 300 euros, pour faire un parallèle avec les nouveaux MacBook Neo à prix très bas. Asus se retrouve plongé par Apple dans la même mouise que celle où l'a mis ses concurrents il y a 20 ans, avec la différence que l'écran ne fait pas 7 pouces de diagonale et que les composants continuent à coûter de plus en plus cher. Retour de karma !
Trump !
Roland Moreno a été choisi par l'association de rétrocomputing Silicium pour être leur héros pour l'année 2026. Il est connu notamment pour son invention de la carte à puce, technologie présente sur nos cartes bancaires, cartes SIM, titres de transport, et j'en passe, mais aussi la machine à trucs et autres délires. Son best-seller, La théorie du bordel ambiant, est toujours un classique.
The Line, la mégacité linéaire en plein désert que souhaite construire l'Arabie Saoudite, est un fiasco. Étonnant, non ? Mais la monarchie a décidé de convertir le projet en data center orienté IA. Étonnant, non ? Et sinon, l'Iran bombarde les data centers saoudis puisque personne n'a songé à mettre une batterie anti-missile devant un data center.
Le SGDSN, le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, a publié sa stratégie nationale de cybersécurité, un plan quinquennal comprenant notamment un socle européen de compétences partagées pour préparer les acteurs aux crises ainsi que de réduire les dépendances technologiques. Bon, c'était déjà un bon début, mais un peu tard vu la quantité de données personnelles dans la nature à cause de services publics ayant des systèmes d'information défaillants. Coucou France Travail, Passeport, Amélie, Ficoba, la région Occitanie, listing à mettre à jour avant diffusion... Ah merde, fallait pas le dire.
Venez comme vous êtes, et peut-être le slogan de McDonald's, mais figurez-vous que la filiale hollandaise a produit une étude très intéressante. Sur le site I Have Been Pwned, qui liste les comptes et mots de passe compromis, Big Mac apparaît 110 922 fois comme mot de passe. Ils ont en gros fait une campagne de pub sur la nécessité d'utiliser des mots de passe solides. De gros mots de passe, taille XXL, et indigeste, avec Coca, frites et sundae s'il vous plaît.
Et d'ailleurs, sachez que la fonctionnalité du mot de passe a 65 ans. C'est en 1961 que CTSS, le système d'exploitation développé par le MIT, introduit la gestion de droits utilisateurs et d'accès par mot de passe. The Register revient dessus avec un court papier d'opinion sur les technologies existantes. On vous rappelle le mot de passe de la vidéosurveillance du musée du Louvre. Louvre, tout en minuscules. Venez comme vous êtes.
Réalité virtuelle. Meta le confirme, c'était bien une réalité virtuelle. Après le rachat d'Oculus, de nombreux studios de jeux spécialisés et 80 milliards investis rien que dans le métaverse, c'est la décrue. Fermeture du métaverse en juin, suppression de 10% des effectifs et de ses Reality Labs, fermeture de 3 studios de jeux VR, arrêt de tout développement pour l'appli VR de Fitness Supernatural, fermeture de l'univers VR professionnel. Petite pensée émue à tous ceux qui avaient acheté des villas virtuelles sur des plages virtuelles, plusieurs centaines de milliers d'euros. Le métaverse, c'est les NFT avec des polygones. Meta précise que néanmoins, ils sortiront de nouvelles références matérielles qui auront toujours besoin d'un compte Facebook pour fonctionner. Ah, ok. Il y a de nouveaux abonnés humains sur Facebook, mais uniquement pour les Oculus Rift. Eh bah, c'est vraiment une réalité virtuelle.
On ne le répète pas assez souvent, les outils open source sont sous-financés, avec trop peu de monde derrière. Cette fois-ci, c'est l'outil Sudo qui est dans la sauce. Outil qui permet d'accorder à un utilisateur des droits administrateurs limités sur Mac et Linux. Alors oui, j'explique à ceux qui sous Windows un OS sécurisé, ça leur parle pas forcément. Un seul mainteneur, même pas à plein temps, avec un budget ridicule et noyé par l'IA slop. Mon Sudo va craquer.
Microsoft fait tomber le support pour les drivers V3 et V4 de ses imprimantes. Dans une prochaine mise à jour, Microsoft, à des fins de sécurité informatique, va laisser tomber le support d'imprimante vieille de plus de 5 ans si le fabricant n'a fait aucune mise à jour du pilote. Cette décision, qui avait été annoncée en 2023, va impacter un grand nombre d'organisations qui verront leurs imprimantes allumées, mais leur système d'exploitation refusait l'impression.
Moi, je m'en fous, je redémarre sur Linux pour imprimer.
Ah, mais c'est pas une légende. T'es vraiment le dernier de l'équipe sous Windows.
C'est pour justement pouvoir en parler. Tiens, à ce sujet, Phil Spencer, le chef de Microsoft Studios et de Xbox, quitte le navire après 38 ans à Redmond, dont 12 ans à la tête de Xbox. Il devait être remplacé par la présidente actuelle, Sarah Bond, mais elle a aussi décidé de quitter le navire. Ce sera donc Asha Sharma, qui était jusque-là dans la division IA de Microsoft, qui prendra la direction de Microsoft Gaming. Bon, j'attends le jour où une mise à jour installera Copilot sur ma Xbox et prendra des captures de mes parties de Dead by Daylight, les postera sur le net en se foutant de ma gueule car je suis toujours nul à esquiver les tueurs, même cette asthmatique d'infirmière.
Le noob. Lanty, dans un blog sur son site, met en garde les attaques informatiques contre les IA génératives en s'attaquant au système de LLM, en les bourrant d'informations susceptibles de dérégler l'IA, en donnant des informations fausses. Merci, on vous avait pas attendu. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on fait ces news sans céder l'IA ?
Fâché avec X, surtout depuis Grok, l'Europe lance son propre réseau social, wsocial.eu. Et non, c'était pas un phoque de Mastodon, mais de Blue Sky, comme l'autre réseau social lancé par l'Europe, eurosky.social. Avantage, si vous avez déjà un compte Blue Sky, vous êtes déjà sur les deux. Le compte de CPU est @cpu.pm.
Les infos reviennent après des trucs qui n'ont que très vaguement à voir.
Oh yeah.
Maximum, No Computer, Eins, Wein, Drei. Qui va représenter l'Eurovision? Je crois qu'il va prendre nos 12 points.
Total ou par pays?
Vous êtes sur FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes en mode Lost and Found. L'industrie du smartphone poursuit actuellement deux objectifs de taille. Littéralement de taille. Proposer des écrans de plus en plus grands dans un boîtier de plus en plus fin. Pourquoi une telle fuite dans les trois dimensions? Parce que le marché le demande. Est-ce que cette tendance connaît une limite? Eh ben, à mon humble avis, oui. L'iPhone Air d'Apple ne se vend pas. 5,6 mm d'épaisseur au garrot, 6 pouces et demi de diagonale d'écran, soit 16,64 cm chez qui boit des demi en litre, ce smartphone devait être le nouveau flagship iOS, mais il est très loin de se vendre aussi bien que ne l'espérait Apple. Au point que sa production a été mise en sommeil. Est-ce dû à l'échec graphique du thème iOS 26 Glass ou du manque de nouveautés technologiques réelles? Moi je parie plutôt que cette gamme d'iPhone qui devait relancer la marque refroidit les acheteurs car on est allé trop fin. En gros, le marché n'a même plus la demande qu'avant sur les dimensions physiques. Avec les frimas d'un hiver auquel nous ne sommes plus habitués, j'ai ressorti de la naphtaline un manteau acheté avant l'arrivée de l'iPhone. Ouais, il date. Il avait néanmoins sa poche dédiée au portable. Assez souple. Bah, vous allez pas me croire. Mon très proche compagnon électronique rentrait pile poil dedans, ce qui m'a titillé les méninges. J'ai eu l'envie d'une étymologie pâtissière. On a étalé le volume des smartphones. En gros, oui, les smartphones sont plus fins et plus grands, mais le volume n'a pas tant changé que ça. Vous ne me croyez pas? Allons sur le vénérable, mais toujours très utile, site GSM Arena et comparons les volumes physiques de l'iPhone tel que sorti en 2007, le 8 en 2017 et le modèle actuel, le 17. iPhone 1, 81 cm3. iPhone 8, 68 cm3. iPhone 17, 85 cm3. J'ai arrondi pour que cela soit clair à la radio. Est-ce qu'Apple est un cas particulier? Prenons la marque historiquement la plus vendue en système Android, Samsung, et plus précisément dans leur catalogue, la gamme Galaxy S qui a toujours suivi à la trace de la culotte les iPhones. Comparons donc le Galaxy S tel que sorti en 2010, sous la référence i9000, le Galaxy S7 sorti en 2016, et le Galaxy S25, car à l'heure où j'écris cette chronique, je n'ai pas encore les dimensions du S26 sorti cette année. Galaxy S original, 78 cm3. Galaxy S7, 78 cm3. Galaxy S25, 75 cm3. Bon, ok, j'ai un petit peu picoré les modèles pour arriver à ma démonstration. Je n'ai pas pris les modèles ultra haut de gamme, phablettes, l'échelon intermédiaire avant les tablettes. D'ailleurs, il y en a qui trouvent l'usage des phablettes inconfortable car le pouce du genre humain n'évolue pas aussi vite que les générations de smartphones. Donc oui, sur un manteau d'il y a 20 ans et en tenant compte de la marge de déformation, les poches intérieures restent compatibles avec l'évolution de forme des téléphones parce que le volume ne change globalement pas. Si ce n'est l'ouverture qui est plus assez large pour le veston, mais bon, dans 15 ans. Si on suit les constructeurs dans leur logique d'écrasement au rouleau à pâtisserie, Apple proposera bientôt des iPhones qui feront 2 mm d'épaisseur, 50 cm de haut et 25 cm de large. Soit il y aura un problème pour qu'il reste rigide, soit il faudra enlever le blindage de la prise USB-C, soit il faudra dérouler son iPad à feuilleter et on ne pourra le charger que sur une cuisinière à induction compatible. J'ai une démonstration que l'argument marketing prétextant une finesse de smartphone plus extrême est arrivé à une limite pratique. Et vous faites partie de ma démonstration. Quasi tout le monde achète une coque et une protection d'écran type Gorilla Glass. Bah oui, au prix auquel le gizmo est vendu, ça serait dommage qu'un coin soit cabossé ou que l'écran soit étoilé. Après tout, on prend des risques rien qu'à déballer son nouvel iPhone. Et ces protections n'ont pas une taille nulle. Mon smartphone fait à poil 8 mm d'épaisseur. Si je le rhabille, ces protections lui ajoutent 2 mm, ce qui lui donne 1 cm tout pile d'épaisseur. Et cela ne me gêne pas plus que ça. Et merde, putain! Ah bah tiens, si je l'ouvre, même sans le vouloir, la taille de la carte mère de mon smartphone est tellement petite qu'elle fait moins d'un cinquième de la surface de l'écran. Oui, il est un petit peu vieux. Ce qui veut dire que le reste est une batterie extrêmement fine. C'est génial pour l'autonomie que la batterie ait pris une telle importance. Elle tient dans la finesse que lui laisse l'épaisseur de l'écran et du fond de coque pour maintenir rigide le smartphone et éviter qu'il ne se plie comme votre pantalon à la moindre contorsion. Sur les laptops, c'est différent. Durant le même laps de temps, nous sommes passés d'une taille moyenne de 15 pouces de diagonale d'écran à 13 pouces en 20 ans. Avec beaucoup. Alors, beaucoup, beaucoup moins d'épaisseur. Pour arriver à un tel exploit, on a d'abord réussi à rendre les appareils moins chauds, puis on a réduit l'épaisseur des composants, puis les rendre plus économes pour réduire la batterie, puis on a supprimé des éléments mécaniques par du solid state, comme les SSD ou le refroidissement du CPU devenu passif. Puis on a supprimé les stockages de masse amovibles, comme le lecteur de CD-DVD ou celui de disquette. Puis on a soudé les composants au lieu de les rendre amovibles. Puis on a rassemblé les puces en un seul APU, parfois alliant la puce broadband, le CPU, le GPU et la RAM, les rendant inextensibles. Puis on a collé des éléments plutôt que les visser. Puis on a réduit la course des touches du clavier au point de les rendre trop fragiles et irréparables. Apple en a encore des papillons au ventre. Oui, à chaque étape, on a rendu nos appareils bien moins réparables, bien moins extensibles, bien moins appropriables par l'utilisateur. Et côté connectique, on a supprimé la prise EGA par du HDMI, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Puis inventer le micro HDMI. La plupart des constructeurs ont supprimé la prise Ethernet, ce qui oblige l'utilisateur à acquérir un dock, une station d'accueil ou un hub à brancher sur sa prise USB-C. Donc, objectivement, les constructeurs ont externalisé l'encombrement du laptop dû à la connectique. Et là, je ne suis pas sûr que le consommateur y gagne, car il est obligé d'acheter une station et un hub USB combo qu'il se traîne partout. Le laptop coûte plus cher, la station d'accueil coûte souvent cher. C'est dommage pour un problème très pragmatique. La connexion réseau quand le Wi-Fi n'est pas praticable pour des raisons d'encombrement hertzien ou n'est pas une option pour des raisons de sécurité. Car mettre une prise Ethernet dans un encombrement de hauteur réduite devient compliqué, cher et fragile. La plupart du temps, les constructeurs rendent dépliable la prise femelle, voire comme Fujitsu avec son portable Lifebook, en ont fait un mini transformer avec une petite merveille d'origami mécanique, mais hélas, plutôt fragile. Je reviens brièvement sur les docks et hubs en USB-C. J'ai même été obligé d'en prendre un pour mon smartphone. Pour y brancher non pas un clavier et une souris, quoique cela m'arrive, mais pour avoir à la fois une prise casque micro 3,5 mm conventionnelle et recharger en même temps. C'est clairement une preuve des limites de la miniaturisation, ou plutôt de la réduction forcenée de l'épaisseur. Et tout passer par une seule prise USB-C y crée une saturation de bande passante. Et forcément, un Ethernet gigabit, deux écrans 4K, le clavier, la souris, le smartphone, la webcam, le disque dur externe, l'imprimante et la charge de la batterie en power delivery, on a beau avoir un débit théorique de 10 gigabits par seconde avec la norme USB 3.2, des fois, ça coince un peu. Non, là, je n'ai pas décrit l'installation de mon smartphone, mais avec de plus en plus de smartphones capables de passer en mode desktop et la fusion prévisible entre iOS et macOS, on va y aller très vite. Quoique les fabricants suppriment de plus en plus l'export d'écran en HDMI via la prise USB. Dommage pour la fusion. En fait, ça me débecte pas mal qu'on doive systématiquement acheter avec un laptop soit un hub USB-C combi HDMI, USB-A et Ethernet ou un dock parce que le volume que le fabricant a gagné sur l'ordi, on le prend en double en dock et le fabricant vend évidemment plus cher le laptop fin et marge encore plus avec le dock recommandé. C'est encore une fois ton portefeuille qui va se retrouver nettement plus fin et ton compte en banque plus rouge qu'une semelle de Louboutin. Est-ce vraiment utile que nos laptops fassent moins de 1 cm de hauteur et que nos smartphones moins de 5 mm de hauteur? Pourquoi avoir tant l'obsession du pied à coulisse et du mètre mesureur dans les deux autres dimensions? Alors quel sera l'avenir du smartphone dans sa forme physique? Peut-être revoir la forme justement, arrêter de l'étirer, de l'aplatir comme une pâte ou d'en faire un feuilleté en le pliant. Osera-t-on réduire la taille de l'écran? Cela a déjà été tenté avec les smartwatches, mais ce ne sont que des alternatives à des smartphones pour la plupart des applications. Alors carrément supprimer l'écran? Justement, ça aussi ça a été tenté avec des smartphones concept. Et ces smartphones étaient trop fortement liés à du service en ligne, donc à leur connectivité. Ils n'ont pas réussi ni à se vendre, ni même à convaincre. Pourtant, je l'ai dit dans une précédente chronique, Apple semble reprendre le concept du Pin AI, le wearable connecté qui se pilote à la voix et aux gestes sans afficheur. Cela me rend malheureux car, sous prétexte de faire plus fin, la prise jack a disparu des smartphones. Paraît que se passer d'une prise jack permet de construire des smartphones certifiés IP68, donc résistant 30 minutes sous 50 cm d'eau. Argue foireuse car faisable avec cette prise. Une pièce détachée qui vaudra, alors je sais pas, je dis au hasard, peut-être 70 centimes d'euros au lieu de 60 centimes d'euros. Alors pourquoi les constructeurs de smartphones font disparaître cette prise casque? Parce que depuis qu'Apple a supprimé les prises jack de l'iPhone 7, Apple a vendu des wagons d'AirPods, ces écouteurs Bluetooth au prix premium. Et donc les constructeurs ont suivi en espérant eux aussi décrocher une martingale, qui n'existe que dans les pays riches. Vous serez surpris de découvrir que des modèles Samsung, Motorola, Xiaomi, vendus en Inde, en Afrique ou en Amérique du Sud, sont pourvus de prise jack, mais pas en Europe. Sans cette prise jack, on n'aura plus jamais de récepteur FM ou DAB+, pour capter radio éphémère sans passer par une application. Mon argument tombe à plat car je suis producteur pour une radio.
Éphémère 89.1, corrosif.
Oh flûte, j'ai encore fait une faute de frappe dans mon texte. Il faut que je réécrive tout le document.
Heureusement, quand il y a typo, il y a Tipex. Désormais, Tipex marche aussi sur les écrans, sur tous les écrans, ordi, tablette, smartphone. Quand il y a typo, il y a Tipex, avec sa touche dédiée.
Abonnement Tipex requis pour utiliser la touche corrective arrière Tipex. Peut inclure des publicités contextuelles en fonction du texte que vous écrivez et du niveau de votre abonnement. Touche correction arrière déjà préinstallée sur tous les claviers informatiques, vous n'avez plus qu'à prendre l'abonnement.
Quand il y a typo, il y a Tipex.
Monsieur, quand au travail, vous n'avez plus de papier toilette au WC, que faites-vous ?
De mon temps, quand on n'avait plus de PQ, on se le torchait avec la ramette de papier perforé.
Ne faites pas comme ce développeur Fortran. Pensez à la douceur de votre arrière-train malmené. Lotus 1, 2, 3... 1. Je détache une longueur de papier. 2. Je me frotte avec. 3. Je la jette dans la cuvette. Lotus 1, 2, 3. Et hop, c'est expédié. Lotus 1, 2, 3 existe aussi en paperless. Attention, ne confondez pas l'intégrer Lotus 1, 2, 3 avec les voitures Lotus ou avec des fleurs de Lotus, parce que c'est pas pareil du tout.
Vous écoutez de la pub ? La pub vous écoute ! N'écoutez plus bêtement vos émissions favorites à la radio. C'est nul et anonyme. Écoutez les émissions en streaming, en podcast ou mieux, dans notre app. Et nous pourrons insérer les spots pubs spécialement pour vous en plein milieu du programme. Vous aurez maintenant les tarifs de vos produits et services favoris avantageusement augmentés à la hauteur de votre pouvoir d'achat. La pub ciblée, un grand moment de créativité dans votre budget.
Message offert par la Confédération des agences de pub, les vendeurs d'espaces publicitaires online réunis et l'Union internationale des brokers de données personnelles. Il est 11h30 sur Radio Éphémère.
Non, laisse-moi, c'est moi qui le fais. Vous êtes sur Radio Éphémère, c'est les news de CPU, ce qui se passe entre deux cycles d'horloge. Nvidia tient à s'excuser pour la démo de leur nouvelle technologie améliorative d'affichage, le DLSS 5. En effet, en l'appliquant au dessin animé The Simpsons, le résultat rendu ressemblait à Eric Ciotti. Le nouveau maire de Nice a plutôt bien pris de ressembler à, je cite, un super-héros super intelligent.
Non, plus jamais un coup en traître comme ça, on fait les news comme d'habitude.
And now, the news.
Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, de suite notre deuxième édition de news pour avril avec l'ensemble de la rédaction Touf et Gabriel. Gabriel.
Joanna Stern quitte le Wall Street Journal. Elle laisse derrière elle une ribambelle de reviews en vidéo en passant par les fonds verts, les parodies de téléachat, jusqu'à s'installer avec une tente pour tester la 5G. Sa dernière vidéo publiée retrace ses 12 dernières années au Wall Street Journal, s'adresse à elle-même en 2014 en expliquant tous les changements à venir dans les 12 prochaines années qui viennent de passer. Il semble qu'elle quitte aussi Engadget et The Verge pour créer un nouveau média.
John Perry Barlow a écrit le 8 février 1996 sa fameuse « Déclaration d'indépendance du cyberspace » à destination des politiques souhaitant régulariser Internet à leur morale. 30 ans après, il n'a pas pris une ride, sinon qu'il faut ajouter des entreprises plus puissantes que les États. Signez avec votre compte Google pour lire la suite.
La législation californienne oblige les systèmes d'exploitation à incorporer un système de vérification d'âge d'ici 2027. Sous Linux, Fedora et Ubuntu se sont mis d'accord pour le mettre dans Systemd, qui est déjà une usine à gaz hors d'âge. Évidemment, la communauté open source hurle devant les dangers évidents pour la vie privée. Faut dire que ce ne sont pas des perdreaux de l'année, eux.
Après l'implémentation de la vérification d'âge sur Discord, 1,2 téra de données personnelles sont parties dans la nature. Et pour pas arranger les choses, le prestataire de services de vérification d'âge n'était autre que Persona, financé par The Founders Fund, un fonds de Peter Thiel proche de Donald Trump. Au fait, Trump s'intéresse beaucoup à l'âge des demoiselles, ou son nom est toujours gommé des Epstein Files.
Lors des attentats de Nice du 14 juillet 2016 qui a fait 86 morts, un journal avait publié la carte d'identité d'une des victimes. 10 ans après, des fraudeurs se faisant contrôler par la SNCF sortent de leur smartphone cette image pour justifier de leur fausse identité. Oui. C'est très très crade. C'est tellement régulier que c'est à se demander si les contrôleurs sont au courant de la combine.
Vous avez sûrement lu les mérites d'un travail 996 dans une certaine presse. Qu'on vous explique. 996 veut dire bosser de 9h du matin jusqu'à 9h du soir, 6 jours par semaine. Donc 72 heures par semaine. Comme par hasard, ce sont surtout des boîtes dans l'IA ou celle d'Elon Musk qui poussent le 996. Une nouvelle norme qui ravit tant certains chefs d'entreprise et investisseurs, les mêmes qui disparaissent le jeudi après-midi pour aller jouer au golf et qui prennent des postes de 3 heures pour déjeuner. Sont pas près du burn-out, eux.
La nouvelle version du kernel Linux ne sera pas la 6.20 mais la 7.0. Linus Torvalds explique qu'il est confus par les gros nombres, donc on passe directement à la dénomination 7.0. La rédaction note qu'avec l'âge, son nombre de gros mots par commit diminue. Il est où l'époque du NVIDIA? Fuck you!
La CNIL a envoyé plusieurs mises en demeure à des fournisseurs de services dont SFR, Darty, OVH Cloud, concernant leur politique de cookies sur les bandeaux d'information, après plainte de l'association PUR, association pour un RGPD respecté. L'association pointe une ineffectivité du retrait du consentement qui rendrait illégale l'intégralité des bannières de cookies existantes. Octave Klaba, PDG d'OVH Cloud, affirme avoir utilisé un service externe qui buguait et avoir fixé ce bug et internalisé pour faire ça en propre lieu au lieu de sous-traiter. Et bah vous savez quoi? Sur notre site cpu.pm, on est en règle sans avoir de bandeau. Pas de tracking, pas de soucis, magique!
Microsoft innove une fois encore dans la sécurité, ben oui! En forçant l'intégration de Copilot dans Notepad depuis février, Microsoft a tout simplement introduit une faille de sécurité très dangereuse dans Windows 11. C'est fabuleux, l'IA! Si vous ne la voulez pas, fuyez!
Quel génie! Une pub du Super Bowl montrant des caméras Ring, capables d'identifier et de suivre un chien à travers tout un quartier grâce à l'IA, a déclenché une polémique aux États-Unis. Toujours secouée par les méthodes ultra-violentes et intrusives de la police anti-immigration ICE. Sous pression et jugée inquiétante sur les dérives de surveillance, Amazon a abandonné son partenariat avec Flock, relançant les critiques sur les technologies.
Encore une idée de génie. Un journaliste spécialisé IA est floué en utilisant un outil IA croyant extraire des phrases d'une discussion qui concernait un agent IA énervé d'avoir eu son commit rejeté en supposant l'être à cause qu'il est une IA et qui s'est vengé par un poste violent contre le modérateur humain.
Attends, tu me la refais.
Donc un journaliste spécialisé IA est floué en utilisant un outil IA croyant extraire des phrases d'une discussion qui concernait un agent IA, énervé d'avoir eu son commit rejeté en supposant l'être à cause qu'il est une IA, et qui s'est vengé par un poste violent contre le modérateur humain. T'as capté ma gâtée?
Oui, mais ça me faisait rire de te voir galérer. L'idée était rigolote. Contrôler son robot d'aspirateur DJI Romo avec une manette de jeu. Sami Azdoufal décide de se lancer dans le projet en vibe coding et découvre par hasard que l'API du fabricant DJI n'est pas du tout sécurisée. Résultat, il avait potentiellement la main sur 7000 robots aspirateurs dans 24 pays. Si c'est connecté à Internet, forcément c'est pas sécurisé. Bref, n'achetez pas du DJI ou tout objet qui est inutilement connecté à un data center.
Le pape Léon XIV demande à ses prêtres, curés et autres chanoines de ne pas utiliser ChatGPT ou toute autre IA pour rédiger prières et homélies. Veuillez croire, c'était ça où le djihad bute les riens. J'avoue que j'ai pas compris cette phrase, faut vraiment que je me mate les films d'une avant la troisième.
Bouygues Telecom innove. Désormais, leurs forfaits mobiles sans engagement ont des frais de résiliation de 5 euros. Le monde des commerciaux télécoms est toujours aussi merveilleux et créatif.
Les sites Speedtest et Down Detector ont été revendus à Accenture. Oui, oui, ils existent encore. Le principe de ces sites étant en accès libre, je me demande comment ils vont le rentabiliser.
Bruxelles comporte plus de lobbyistes tech déclarés qu'il n'y a d'eurodéputés. La preuve que l'Europe fait très, très peur aux grosses boîtes américaines et chinoises. Merci l'Europe. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime.
Charles Bennett et Gilles Brassard, deux pionniers de l'informatique quantique, ont reçu ensemble le prix Turing. L'Américain et le Canadien avaient proposé en 1984 un protocole de chiffrement permettant d'échanger des clés secrètes sur un canal non sécurisé, méthode basée sur la physique quantique, plus exactement sur le phénomène d'intrication. Son petit nom est BB84 et non, vous n'êtes pas encore prêt à l'utiliser pour consulter votre compte bancaire.
Les infos reviennent dans l'émission CPU prochainement.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. La fête. Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Ou t'es la plus belle. Paris m'appelle. Quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent. Je vais mieux quand je te vois. Les villes sont belles. Mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent. Moi je ne t'oublie pas. On n'a pas la plus longue de toutes les histoires. On le sait, on n'a pas toujours gagné. J'ai l'attitude, même si c'est dur, de garder espoir. Quand on n'est pas les premiers. Les marolles, flagées, Saint-Gilles, la gueule. À qui je dois mon nom. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Ou t'es la plus belle. Paris m'appelle. Quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent. Je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles. Mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent. Moi je ne t'oublie pas. Et si un jour elle se sépare. Et qu'on ait à choisir un camp. Ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires. En français et en flamand. Lad mir erzählen in advance. Mais que Bruxelles vaut mon âme. Et si un jour elle se sépare. Et qu'on ait à choisir un camp. Ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires. En français et en flamand. Lad mir erzählen in advance. Danke Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas fait rire. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Ou t'es la plus belle. Paris m'appelle. Quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manque. Je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles. Mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent. Moi je ne t'oublie pas.
Bruxelles, je t'aime, par Angèle. Oh oui, j'aime l'administration européenne. Vous écoutez Radio FMR ? C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes en mode Lost and Found. Et avant de continuer avec le courrier des audilecteurs, je tiens à dire que Radio FMR a été secoué par la disparition soudaine de Fabrice Serin, alias Digitro, à l'âge de 57 ans. Il a longtemps contribué au mythique magazine Abus Dangereux, dont il assurait la version radio, a cofondé le disquaire Vicious Circle, et sa programmation musicale, capable de lier mauvais goût assumé et futures tendances de l'underground, ont fait les bonheurs de nos vendredis soirs. La radio a été en petite délégation pour la cérémonie d'hommage à notre camarade qui s'était impliqué dans nombre d'associations, aussi bien sur l'organisation de soirées, de randonnées cyclistes, ou même quand il passait chez Tout Libre et au Capitole du Libre. Comme me l'a dit Pierre Rogal de la direction de la radio, le pâté croûte va se sentir bien seul sans Fabrice. Parce que oui, le rituel pâté croûte des réunions animateurs de la radio qu'on avait tourné en gag en septembre dernier, c'était surtout lui qui s'en régalait. Mais outre qu'il était gourmand, il était gentil, discret, bienveillant et d'une curiosité insatiable. À cause de toi, je me suis retrouvé dans le cordon de sécurité à contenir 500 furieux face au sexy sushi, les trois filles à poil sur une mini-scène. Éprouvant, mais drôle. Fabrice, tu nous manques sérieusement et le monde va être bien triste sans tes sélections auditives. Et j'ai un mal fou à ne pas retenir mes larmes en écrivant mon prompteur. Jingle. Le petit truc chez vous, audilecteur, qui fait toujours un bien fou à lire, c'est ce que vous pensez de notre émission. MMU Man sur Mastodon a fait ce triste constat.
CPU, faut vraiment que je reprenne le footing, j'ai plus le temps d'écouter.
Ben perso, moi j'écoute la concurrence durant mes sessions de claviering, par exemple l'émission radio Underscore sur Radio Mega par un certain MMU Man. dont Mescalito sur Blue Sky a découvert notre émission suite à notre interview de Mr. Fox et s'en plaint.
En tout cas, pas bravo pour votre jingle, je l'ai toujours dans la tête.
Opération verre d'oreille parfaitement fonctionnelle. Anthrax sur Mastodon réagit à notre chronique sur le CVE Slop.
Bien joué, Lascritch, le jeu de mots sur le logiciel libre qui est faussement gratuit. Ou est-ce juste que c'est l'accent toulousain ?
Oui, il a écrit faussement, F-O-S-S-E-ment, en référence à l'abréviation anglaise FOSS, Free and Open Source Solution.
Oui, c'est l'accent.
À propos de... Oui ?
Je te refais la fin un peu plus avec l'accent toulousain.
Non, Gabriel, ça va parfait. Hey.
Ou c'est juste l'accent toulousain ?
À propos de notre émission sur le musée du jeu vidéo de l'association MO5, 19e TOC sur Blue Sky, Sextasy.
On peut même jouer à Bomberman à plusieurs, et ça, si c'est pas génial, hein ?
Mikko Hipponen, l'une des grandes légendes des hackers White Hat, nous a mentionné sur LinkedIn, puisque nous l'avions mentionné dans notre émission sur les musées informatiques pour son musée de malware.
Classe !
Toujours sur notre émission double sur les musées informatiques, encore une super émission dit YTH sur Linux en détaillant
où on apprend plein de trucs, se rappelle de plein d'autres et on regrette de ne pas avoir été là le jour où un membre bien intentionné de la famille a nettoyé les vieilleries dans la salle info de ma grand-mère avec entre autres un Apple IIe et un ZX81 en parfait état avec imprimante, double lecteur de disque 5 pouces et quart et d'autres accessoires pour, dont une console tellement vieille que je n'y ai jamais joué, je n'ai même pas le nom. Bah, avec du bol, ça n'a pas juste terminé à la poubelle, mais personne ne se rappelle.
Hélas, je fais aussi parfois trop bien le ménage dans certaines de mes étagères, mais pas toutes, heureusement. Sur Mastodon, Fred, sur sujetlibre.fr, nous fait la propagande.
Il y a un truc cool le jeudi, c'est que l'émission radio CPU du jour est téléchargeable et que je peux l'écouter presque entièrement en rentrant chez moi. J'adore!
Et suivant votre navigateur web et votre connexion, vous pouvez nous télécharger en MP3 qualité podcast ou en Ogvorbis qualité broadcast, comme à la radio, enfin, avant que ça parte en FM. David Bunker nous a retrouvés sur Mastodon. Nous l'avions reçu dans notre release EX114 Design spéculatif, biotech et algorithme prédictif. C'était la première émission produite par Élise Rigaud. Et pour son interview, Élise était allée à Londres. À son retour, elle m'a fait des yeux énormes. Mais en fait, il connaît très bien l'émission. Et c'était un très beau souvenir de voir sa tête. David est actuellement project lead sur le projet d'auto-hébergement chiffré CryptPad. Classe. Loïc Lacombe a réagi sur Mastodon à notre chronique sur le Powerball.
J'ai toujours ma Powerball de l'époque. Elle m'a encore servi récemment quand je me suis mis au piano et que j'ai dû me renforcer les doigts et les poignets.
Donc, astuce pro tip, ne défiez pas au pouce de fer un pianiste, sauf si vous êtes bassiste dans un groupe de métal. Christian Busquet m'a demandé en contact sur Ponos, justement le lendemain de la diffusion de l'émission sur les réseaux sociaux professionnels, et c'était accompagné de ce message.
Pas vraiment une demande de connexion, même si... Mais bravo pour CPU, émission que j'adore et que j'écoute en podcast. Bravo.
Sur Mastodon encore, TTH nous a écrit...
Je viens de lire ton excellent article de la saga sur la FPGA, et ces quelques lignes m'ont interpellé.
Aux États-Unis, une formule mathématique est parfaitement brevetable et d'ailleurs de tels brevets reconnus par leurs tribunaux. Tribunaux qui ne sont pas particulièrement tendres dès qu'on bafoue la propriété intellectuelle.
Et dans mes lointains souvenirs, il y a eu une patent battle autour de l'utilisation de l'opération logique XOR pour l'affichage du curseur dans les interfaces graphiques. Je pense que tu pourrais bien nous faire une rubrique là-dessus.
Et ça fera peut-être tilt pour ceux qui ont connu les tout premiers Mac monochrome. Suite à notre chronique sur le front de libération des FPGA, Martoni sur LinuxFR nous a écrit
« Merci pour la citation, je serai ravi de vous rencontrer un jour, mais j'avoue que Toulouse, c'est loin de l'Alsace. »
Mais la bière tient toujours, ou une bouteille de Pinot Gris d'Alsace. Toujours sur LinuxFR à propos de notre première partie sur l'arrivée de l'IA génératif dans le doublage au cinéma, Gilles Cotte nous a écrit sous le titre « Merci, pas du bout des lèvres ».
J'ai écouté hier après-midi, c'était passionnant, on apprend plein de trucs, des premiers animés français au livre de la jungle.
Mille merci aussi à nos invités qui veuillent bien répondre, ce qui nous force à faire attention en préparant, mais il m'arrive de lâcher avec enthousiasme en plein milieu d'interview des bourdes assez énormes. Je tiens à faire un salut amical à Sylvain Attiel, qui a eu une riche carrière radio à RTL, Sud Radio, Radio France et Toulouse FM, dont il fut d'ailleurs le directeur, et il est actuel président de l'école de journalisme de Toulouse. On était allé enregistrer avec lui à Toulouse FM en 2020 pour parler de son livre « Conquérant des ondes » sur la plus puissante radio privée d'Europe dans l'entre-deux-guerres, Radio Toulouse. On avait appelé l'épisode « Citizen Trémoulé », il avait adoré le titre. Il vient donc de sortir la suite de son livre « L'histoire secrète des grandes radios pyrénéennes », donc sur Radio Andorra et Sud Radio. C'est chez Priva et j'ai hâte de le lire. Et sur Linux FR, nous annoncions la journée portes ouvertes du Theta Lab à l'occasion du IOHD 2026 qui a eu lieu samedi 28 mars. TTH, pilier du Theta Lab, nous a apostrophé.
Et peut-on espérer l'enregistrement en mode micro-trottoir d'une séquence future CPU dont le thème se retourne de la vision de ce qu'est un hackerspace dans le grand public?
Et là, on est où là? Et la dernière vient de notre boîte email, c'était un retour du courrier de janvier.
Hello Dascritch, c'est avec plaisir que j'ai écouté, toujours dans le bus, le CPU EX228 Lost Plus Found janvier 2026 et que j'y ai découvert ton anecdote sur notre rencontre fortuite dans ce même moyen de transport. Je dois dire d'une part que je n'étais pas conscient d'avoir une mine un peu triste et d'autre part que CPU n'était pas mise en valeur comme il se doit sur Spotify. J'ai maintenant corrigé le tir sur ces deux aspects. 1. En écoutant CPU sur Apple Podcast. 2. En souriant, car, oui, en 2026, nous avons besoin d'une bonne dose de bonne humeur. Longue vie à CPU!
Merci et à plus dans le bus!
C'est quoi la bonne humeur?
Haven't you heard I'm the internet girl?
I'm getting out of here. Eat zucchini!
Katsai, Internet Girl. D'ailleurs, vous savez pourquoi on entend tout le temps Eat the Kini sur le morceau? Bon, si je vous dis que vous avez compris, elles parlent de leur présence sur les réseaux sociaux, et si je vous dis que les mecs sont lourds, ben, the Kini, c'est un concombre. Et tout simplement, c'est sus ma bite. Ceux qui participent à l'émission savent que depuis que je fais CPU, je surécris mes textes, alors que pendant 20 ans, j'étais très souvent en impro. Pourquoi je le fais? Parce que quand on parle tech, donc, qu'on a besoin de précision, il vaut mieux éviter l'impro, sinon on perd le rythme à trouver les mots justes. Ensuite, on fait parfois des chroniques enregistrées sur plusieurs semaines, comme nos spéciales Halloween. Le final de la dernière a été enregistré entre août et octobre. Une fois le texte à moitié enregistré, il faut éviter de le modifier. Et ensuite, les textes sont écrits à l'enregistrement pour des questions d'accessibilité. Et faute de faire des piges de nos interviews, on a systématisé l'écriture à l'avance des chroniques pour être absolument certain d'avoir une version écrite. Il faut aussi penser au SEO, mais aussi aux gens qui font le choix de ne pas écouter, mais préfèrent lire. Ceux qui s'amusent pendant la réunion mensuelle d'objectifs, ceux qui lisent quelque chose en berçant bébé, ou encore nous-mêmes, quand on ne veut pas écouter, mais retrouver si un sujet a déjà été abordé dans l'émission. Et enfin, un bête constat, quand j'improvise, je casse mes propres vannes. Il y a d'autres animateurs de l'émission qui ont testé, ça marche pas non plus. Inconvénient, il ne s'agit pas de lire un texte écrit au micro, mais de le dire. Et pour avoir travaillé avec des comédiens, croyez-moi que ce n'est pas donné à tout le monde. Pour ceux qui nous suivent par podcast, ils ont remarqué que depuis février, notre flux comporte enfin l'ensemble des émissions. Mais avec une limite, seules les 100 dernières ont une description complète. On limitait la taille de notre flux podcast pour des raisons de taille acceptables par certains redistributeurs et certains logiciels lecteurs. Autre chose, nous enregistrons très largement en avance nos émissions, ce qui nous donne du retard sur les news. Bah oui. D'ailleurs, je crois que vous l'avez compris, on enregistre les segments de certaines émissions dans le désordre. Et enfin, suite à une remarque sur Linux FR, on nous a demandé pourquoi nous annonçons nos émissions dans les journaux, donc en page intérieure de Linux FR, plutôt qu'en news, donc sur la page d'accueil de Linux FR, contrairement par exemple aux émissions Projet Libre. Parce que justement, Linux FR est très orienté informatique libre, alors que nous souhaitons ne pas faire l'impasse de traités, de logiciels commerciaux, privateurs ou de vieilles bécanes, ou même de trucs qui sont complètement what the fuck, comme le jeu qu'on a fait pour Noël, ou prochainement une émission exclusivement bouffe. Je reviens dessus en plus explicatif sur Linux FR, suivez le lien dans la page coulisses de cette émission, sur la page web cpu.pm/241. Et si vous voulez ne jamais manquer un épisode, il vaut mieux soit s'abonner au podcast de l'émission, soit s'inscrire sur notre newsletter. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce sur les réseaux sociaux et vos apps de podcast en rediffusant, likant, mentionnant. C'est frustrant de vous le demander, mais il devient de plus en plus dur de s'y faire remarquer face à des fermes d'IASLOP. Alors que nous, toutes nos émissions sont bio. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile de Radio FMR, et nous sommes en mode Lost and Found. Et justement, on en parlait tout à l'heure qu'on serait à l'IOHD 2026, donc à l'International Open Hacker Space Day. Et nous sommes donc au régional de l'étape, au Theta Lab, depuis Topic, donc depuis le 96 rue Bourbaki. Et je suis donc avec Benoît, qui connaît un petit peu le lieu. On a déjà enregistré ici.
Oui, tout à fait. La température est fraîche, mais l'ambiance est bonne. On a commencé avec une petite conférence introductive sur le concept même de hackers qui ne sont pas de méchants pirates, mais de très gentilles personnes qui nous accueillent. Et on va bientôt aller faire un peu de soudure pour apprendre à éteindre des télévisions.
Ah, la TV Bigone, un grand classique. Et donc, eh ben, il y a Touf qui découvre le lieu pour la première fois.
Absolument, je trouve que c'est vraiment un super lieu, c'est assez surprenant. On voit plein de gens différents, plein de démarches différentes. Un monsieur qui fait de la musique, on voit du beau, on voit pas que du technique, c'est intéressant.
C'était ça qui t'avait surpris dans le concept, c'est qu'il était aussi question d'art.
Ouais, exactement. Et j'avoue que c'est vraiment le côté qui me plaît beaucoup. Voilà, il y a des machines folles qui sont faites par des gens qui, je pense, sont tout aussi fous, mais c'est ça qui fait la beauté de la chose. Ben voilà, c'est une excellente ambiance, très très chouette.
Tu as déjà pu discuter justement avec l'animateur donc de l'atelier lockpicking. Il y a aussi donc une installation artistique où on joue avec des samples et des petits peu, et c'est un jeu de plateau en fait. Et voilà, faut dire les choses et plein d'autres choses. On est en début d'après-midi. On va voir un petit peu ce qui va se passer. On a aussi nos calendriers et on a déjà des enregistrements dans les pattes. Donc on est un petit peu en fin de pile, mais néanmoins. Le truc que vous aimeriez faire là de suite, toi je crois que tu veux te barrer de suite là.
Non, moi je veux aller souder parce que c'est rigolo, mais j'ai regardé le programme, il y a plusieurs autres conférences intéressantes et c'est pas rediffusé sur internet, alors il fallait venir, dommage pour les gens qui sont pas venus.
Eh bah oui, bah c'est le principe, hein. Il vaut mieux être là pour faire justement le truc. Qu'est-ce que tu aimerais faire, Touf, de ton côté?
Moi, j'aurais aimé faire l'atelier de lag picking. Et puis, j'ai envie de voir aussi la session de live coding.
Oui, de live coding par Nina, effectivement.
Exactement. Donc voilà, en espérant que je puisse.
Et attention, hein, on a des auditeurs. Hein. Il y en a qui nous reconnaissent à la voix.
Surtout la mienne.
Tout à fait, c'est du live coding musical. Donc elle compose algorithmiquement une mélodie et des rythmes.
Et elle va bientôt faire une émission normalement pour CPU, justement pour discuter tout ça. On en reparlera. On fera justement probablement un enregistrement en public avec démonstration technique et performance. Et ce sera retranscrit de notre côté.
Il y a aussi une petite touche de rétro-computing, ce qui me fait toujours plaisir, puisque un participant a amené de l'électronique moderne à un FPGA qui émule des vieux micro-ordinateurs des années 80 sur lesquels il joue des démos. Et ça, c'est chouette.
Et on va pas revenir dessus, on a fait 3 heures d'émission déjà là-dessus, mais c'est, tout le monde a kiffé, donc c'était super. Plein d'autres choses, et c'est dommage que vous ne soyez pas là, ou peut-être que justement vous étiez là et vous avez pu discuter avec nous. On en reparlera prochainement. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio Éphémère. Dans la série Lost and Found, release 241, avril 2026. Pour cette release, l'équipe est composée de Benoît, Touf, Gabriel, Daskritch et Enflammé. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Un segment de l'émission a été enregistré depuis le Topic pour la journée portes ouvertes du Theta Lab. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/241. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça! Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi 7 mai dans 15 jours à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio Éphémère le jeudi en direct, il est midi, nous retrouvons Monique Blanquet. Monique à qui il faut que j'explique que Look Mom No Computer, c'est un cœur qui va te défriser l'Eurovision. Éphémère à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.